Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9ART3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié initialement en 1961 et continuellement enrichi par Raoul Hilberg, La destruction des Juifs d'Europe est une étude historique majeure sur la Shoah. Le premier tome expose les préparatifs et les premières phases du processus qui mena au génocide des Juifs européens sous le régime nazi. Historien américain né à Vienne, Hilberg ne propose ni un récit mémoriel ni une chronique centrée sur les seuls camps. Il reconstitue, à partir de documents administratifs, de lois, de correspondances et de données institutionnelles, le fonctionnement progressif de la persécution. Son objet central est le mécanisme de destruction dans ses dimensions politiques, économiques, juridiques, administratives et logistiques. Le livre suit une séquence décisive définition des personnes visées, dépossession de leurs droits et de leurs biens, isolement, concentration, puis destruction. Cette méthode fait apparaître comment une politique génocidaire a pu se développer au sein des rouages ordinaires d'administration et de services publics. La lecture est exigeante, mais elle fournit un cadre essentiel pour comprendre la portée continentale et la construction graduelle de la Shoah. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une histoire de la Shoah conçue comme un processus administratif. La contribution la plus durable de Hilberg consiste à analyser la destruction des Juifs européens comme un processus, plutôt que comme une succession isolée de violences ou comme le résultat immédiat d'une seule décision. Son cadre distingue la définition « expropriation », concentration et anéantissement. Ces phases ne doivent pas être comprises comme des compartiments parfaitement séparés. Elles se chevauchent et chaque mesure rend la suivante plus praticable. Une définition juridique permet de désigner une population. La privation de droits et de ressources la rend vulnérable. La ségrégation territoriale et sociale facilite ensuite la surveillance, les déportations et les meurtres de masse. Cette construction analytique éclaire la radicalisation graduelle des politiques nazies entre les années 1930 et la guerre. Hilberg montre ainsi que le génocide ne fut pas uniquement une explosion de fanatisme, mais aussi une entreprise construite par des dossiers, des règlements, des recensements, des transferts de propriété et des décisions de service. Cette approche ne réduit pas la responsabilité idéologique des auteurs. Elle explique au contraire comment un antisémitisme d'État a acquis des capacités opérationnelles considérables. Le lecteur voit que les instruments administratifs apparemment techniques peuvent devenir des moyens de persécution lorsque leur finalité politique est criminelle. Deuxièmement, définir le juif le droit racial comme instrument de persécution. Le premier mouvement étudié par Hilberg porte sur la définition administrative de la personne juive dans l'Allemagne nazie. Avant de pouvoir exclure, dépouiller ou déporter, le régime devait établir qui relèverait de la catégorie visée. Les lois raciales et leurs règlements ont donc produit des classifications fondées notamment sur la filiation et sur le statut religieux des ascendants. Cette entreprise révèle une contradiction fondamentale du racisme nazi. Il prétendait identifier une réalité biologique, mais devait recourir à des critères documentaires, familiaux et religieux, pour la rendre administrativement applicable. Les cas de mariage mixte et de personnes classées comme métisses ont exigé des règles additionnelles, des examens de dossiers et des arbitrages bureaucratiques. Hilberg met en évidence la fonction concrète de cette complexité. Elle transforma une idéologie en catégorie utilisable par les employeurs, les tribunaux, les administrations locales et les organismes économiques. La persécution ne reposait donc pas seulement sur des déclarations de haine. Elle dépendait de procédures capables de trier la population et de diffuser les conséquences de ce tri dans la vie quotidienne. Cette analyse aide à comprendre que le droit peut servir à protéger des personnes ou, sous un pouvoir criminel, à institutionnaliser leur exclusion. La légalité formelle ne constitue jamais, à elle seule, une garantie de justice. Troisièmement, expropriation et travail forcé, la destruction commence par la dépossession. Hilberg traite la dépossession économique comme une phase constitutive de la destruction et non comme un simple effet secondaire de l'antisémitisme nazi. Les révocations professionnelles, les restrictions imposées aux entreprises, les transferts forcés de propriété, les prélèvements spéciaux et la mobilisation du travail ont progressivement réduit les Juifs à une condition de dépendance. Cette politique procurait des gains à des institutions et à des acteurs privés, mais elle répondait également à une logique de mise au ban. En retirant emploi, patrimoine, autonomie et droits civiques, le régime détruisait les moyens matériels permettant de fuir, de se protéger ou de maintenir une existence sociale indépendante. Hilberg insiste sur les tensions qui accompagnaient cette politique. Certains services de l'État et certains employeurs pouvaient chercher à préserver des compétences utiles à l'économie ou à effort de guerre, tandis que les impératifs anti-juifs poussaient vers une exclusion toujours plus large. Ces arbitrages montrent que la destruction fut menée malgré des coûts économiques réels, ce qui souligne sa priorité idéologique et politique. Le livre permet aussi de saisir la pluralité des bénéficiaires et des exécutants banques, administrations fiscales, services du travail et autorités locales participaient, selon leur fonction, à la spoliation. La violence génocidaire apparaît ainsi liée à une redistribution concrète des biens, des emplois et des positions sociales. Quatrièmement, séparation et ghettos, concentrer une population pour la rendre contrôlable. La concentration désigne chez Hilberg les mesures qui isolent les Juifs du reste de la société et les rassemblent dans des espaces soumis à un contrôle accru. Elle comprend les restrictions de déplacement, les séparations résidentielles, les expulsions et, dans les territoires occupés, la création de ghettos. Ces dispositifs avaient des formes diverses selon les pays, les périodes et les autorités en présence. Leur logique commune était de transformer une population dispersée en une population identifiable, immobilisée et administrable. Le ghetto ne doit donc pas être envisagé seulement comme un lieu de souffrance extrême, de famine et de surpeuplement. Dans le raisonnement de Hilberg, il devient aussi un rouage dans une chaîne institutionnelle. Il facilite le recensement, la surveillance, le prélèvement de main-d'œuvre, la confiscation et finalement les déportations. Le livre souligne le rôle ambigu et tragiquement contraint des conseils juifs, imposés par les autorités allemandes pour transmettre des ordres et administrer certains aspects de la vie collective. Cette question a suscité des débats historiographiques importants, notamment lorsque Hilberg généralise les réponses des victimes et de leurs dirigeants. Sa démonstration reste cependant essentielle pour comprendre comment les autorités occupantes ont utilisé des structures locales afin de rendre possible leur politique. La concentration montre que la destruction dépendait aussi de la maîtrise de l'espace, des registres et des circulations. En dernier lieu, bureaucratie concurrente et initiative des exécutants dans la radicalisation. Hilberg refuse de présenter le système nazi comme une machine parfaitement centralisée qui aurait appliqué un plan unique, détaillé dès le début. Il montre plutôt la participation de nombreuses institutions, autorités civiles, police, SS, ministères, services ferroviaires, organismes économiques et administrations des territoires occupés. Ces acteurs poursuivaient parfois des priorités concurrentes, mais ils partageaient un cadre antisémite et cherchaient fréquemment à anticiper les attentes du pouvoir. La radicalisation pouvait alors résulter d'initiatives prises à plusieurs niveaux, de rivalités administratives et de adaptations aux circonstances de guerre. Cette perspective est importante car elle évite une image rassurante dans laquelle les crimes seraient commis uniquement par quelques dirigeants donnant des ordres explicites. Hilberg établit que la bureaucratie ne signifie pas nécessairement passivité ou obéissance mécanique. Des agents peuvent interpréter des orientations générales, proposer des solutions plus sévères et coordonner leurs actions sans disposer d'une directive unique pour chaque étape. Cela ne dilue nullement les responsabilités. Au contraire, cette analyse élargit le champ des responsabilités institutionnelles et individuelles. Elle explique comment des tâches fragmentées, telles que classer, saisir, transporter, affecter ou enregistrer, ont convergé vers un résultat meurtrier. Le premier tome donne ainsi les outils nécessaires pour comprendre la capacité du régime à transformer une persécution administrative en destruction systématique. En conclusion, la destruction des Juifs d'Europe convient en priorité aux étudiants, enseignants, chercheurs et lecteurs déjà disposés à aborder une histoire dense, documentaire et parfois difficile. Elle intéressera aussi toute personne qui cherche à comprendre non seulement que la Shoah a eu lieu, mais comment un État moderne et ses institutions ont rendu possible un crime de masse à échelle européenne. Le bénéfice intellectuel principal du livre réside dans son architecture explicative. Hilberg relie les lois raciales, la spoliation, la ségrégation, les ghettos, les services de transport et les appareils de police au sein d'un même processus. Il rend ainsi visibles les liens entre des actes administratifs dispersés et leur issue génocidaire, par rapport aux témoignages de survivants. Aux biographies de dirigeants nazis ou aux monographies centrées sur un camp et un pays, son travail se distingue par son ambition structurelle et continentale. Il ne remplace pas les approches centrées sur les expériences vécues des victimes. Et certaines de ses analyses sur les conseils juifs ont été vivement discutées par des historiens. Mais cette limite ne retire rien à la valeur de son enquête sur les institutions persécutrices. La rigueur froide de son écriture correspond à son projet d'établir les mécanismes, les responsabilités et les enchaînements sans les dissoudre dans une abstraction morale. Ce premier tome est particulièrement utile pour comprendre que le génocide fut préparé par des mesures graduelles, souvent présentées comme administratives, avant de prendre sa forme exterminatrice. Si vous souhaitez soutenir Raoul Hilberg, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.